Alors, cette fonction donc, des deux parents est très importante pour être conservée. Quoi qu'il arrive, au cours du divorce, il faut que le père géniteur soit distingué de tous les autres hommes qui vont traverser la vie de cette femme. Quelquefois, maintenant, on fait deux couples, trois couples. On a trois pères, mais on a son papa. Et puis, on a papa Gilbert, papa Yves, et papy François, et papy René. Enfin, il y a plein d'hommes qui vont traverser, mais l'enfant dit, ça c'est papa. Il n'a qu'un papa. Il a plein de papas d'adoption qui sont charmants, qui vont faire de la séduction, de tout. Il faut que le papa reste au premier rang en disant je ne risque rien, moi. Je l'ai adopté, je l'ai attaché la première année. Je ne risque rien. L'autre, il est arrivé après, c'est cuit pour lui. Il l'aimera bien, c'est sûr, mais jamais il me détrônera. Il faut qu'un père puisse savoir ça. Autrement, il est inquiet. Pendant 15 jours, il est inquiet. Et quand il voit son fils arriver le 15e jour, il lui fait une fête digne de... je ne sais pas quoi. Il y a des ballons partout, il y a un gâteau au chocolat, dans le lit on a mis un doudou tout neuf, un nouveau nounours, et les parents qui voient leurs enfants trop rarement leur font plus que de l'amour parental, ils leur font de la séduction pour être sûr de plaire, pour être sûr de plaire au premier rang, ils en font un maximum. Mais c'est une erreur, car ce n'est pas ça un papa. Un papa, c'est quelqu'un avec qui on vit, tout simplement. Et le père doit continuer sa vie, samedi et dimanche. Il y a Olivier, où il n'y est pas. Mais le père ne doit pas faire une foire énorme, parce que son fils est là, et ce n'est pas un bon moyen. Ça fait de l'enfant quelqu'un qui se dit, mais je suis tout pour mon père. Alors quand j'arrive, là, il me donnerait tout. Hein. Il me donnerait la voiture à conduire, hein. C'est incroyable. Et il se dit, mais je règne partout. Déjà, ma maman ne me gronde pas, parce qu'elle est coupable à la maison d'être toute seule et elle ne veut pas que je vois qu'elle est méchante, donc elle n'est jamais méchante. Et quand j'arrive chez mon papa, il est prêt à tout. Il m'adore. Voilà le dire des enfants divorcés. Comment voulez-vous qu'on devienne un citoyen organisé, respectueux de l'autre, respectueux des désirs de l'autre? Si on a vécu ainsi, en triomphateur, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc, malgré le divorce, malgré les ruptures, il faut que le père et la mère soient deux êtres spéciaux, individuels, et que l'enfant est intégré dans son ordinateur pour toujours. Peu importe ce qui va arriver après, ça va peut-être pas drôle ou peut-être charmant, j'ignore. Mais il faut que cet enfant puisse raconter son histoire et dire, moi, j'ai mon papa, il n'est pas là, il travaille ailleurs, je le vois quand je vais aux grandes vacances. Très bien. Et puis après, j'ai papa Gilbert, il est très gentil. Moi, je vais à la pêche avec lui, il est gentil, il me donne des bonbons. Il raconte ce qu'il veut, ça ne fait rien. Mais il ne faut pas que l'enfant ait de rupture dans son identité. Et là, je touche quelque chose qui va être le dernier point, parce que je pense qu'il est tard. Le dernier point qui appartient au père, c'est l'identité de son fils, parce que la mère va faire de l'identité au féminin, c'est-à-dire de l'homosensualité qui précède la sexualité, avec sa petite fille, elle va lui dire « tu es comme moi, regarde, on est toutes pareilles, tu auras une robe comme ça, je vais t'acheter une robe comme moi, je vais t'acheter un petit sac à main, je vais t'acheter un petit truc pour te farder, les petites filles adorent ça, elles font les mamans, elles s'amusent beaucoup, très bien ». Ça, c'est le passage de la féminité d'une femme à l'autre. Mais qui fera le passage de la masculinité l'un à l'autre si le père ne le fait pas? Et comment le père peut-il le faire s'il n'a pas l'attachement? Et le père fait la première homosensualité de la vie du petit garçon. En ce sens, il est essentiel. Ceux qui n'ont pas eu ça, très souvent, deviennent homosexuels. Pourquoi? Parce qu'ils ont absolument besoin d'être amis avec un homme qui est comme eux et d'éprouver qu'est-ce que c'est de donner la main à quelqu'un qui est pareil. C'est un truc sans méfiance. C'est un truc, c'est tout couru, on peut compter dessus, il est pareil. Et c'est quelque chose d'inénarrable, mais les gens qui n'ont pas eu cet homosensualité de départ, quelquefois se tournent à l'adolescence vers l'homosexualité, que nous considérons plus grave, plus engageante, qui détourne davantage les gens de la famille. C'est un point de vue moral peut-être, mais il est clair que de plus en plus, l'homosexualité devient un mode de vie, alors qu'elle pourrait très bien rester accidentelle, un essai, un amusement de l'adolescence, et on retournerait à l'hétéro, parce que nous sommes hétéro et homo, comme Platon l'avait dit, et nous ne nous servons que de l'hétéro. Et depuis le début de notre vie, les petites filles n'ont pas d'hétéro avec le père, c'est pourquoi elles rêvent d'un prince charmant inimaginable, elles ne le trouvent jamais. Et les petits garçons ont vécu trop d'hétéro avec la mère, et ils ne trouvent aucune femme digne d'être comparée à la mère. Et vous voyez un homme de 50 ans qui a eu deux divorces derrière lui, il vous dit tout franchement, ben moi j'ai eu deux divorces, hein, je ne sais pas, j'ai eu une vie un peu agitée, ça je reconnais. Hein. Oh moi alors j'ai une mère hein, de 80 ans, je vais la voir toutes les semaines, oh, quelle femme! Et quand vous voyez ça chez un homme de 50 ans, vous vous dites, mais cette femme, elle a tué toutes les autres. Personne ne résistait devant elle. C'était impossible d'arriver au niveau où elle est. Ben, évidemment, elle avait recueilli tout l'attachement pendant 5 ans, 6 ans, 10 ans, ça dépend des lieux et des familles. Et elle était toute puissante. Hein. Si elle disait, ma belle-fille est idiote, terminé. La belle-fille, elle n'avait plus qu'à regarder les murs. Hein. C'était tout à fait terrible, cette femme. Donc, cette femme, ce qui m'étonne beaucoup, mais je pense que c'est tout à fait classique et lacanien, quand les gens m'attaquent en me disant, mais madame, le père, quand même, servait à séparer l'enfant de la mère et la mère de l'enfant. Et je dis, vous ne voyez pas que le père sert finalement, la mère sert elle aussi, ils servent tous à séparer l'Œdipe, qui se fait forcément. Si vous avez un père seul, veuf, sa femme a eu un cancer jeune, il est seul avec sa fille, ils sont en Œdipe très serrés. Il y a de grandes chances que cette fille adore son père, qu'elle ne trouve jamais un mari valable et qu'elle retourne à 40 ans chez son père en disant, écoute, moi j'ai tout loupé avec Eric, avec Jean-Yves, moi, j'ai deux bébés, est-ce que tu veux que je vienne chez toi? Le père dit oui, puis voilà, et on repart comme ça. Mais le père et la mère servent chaque fois d'antidote pour l'Œdipe de l'autre. Et cet Œdipe, il faut qu'on le traverse, il ne faut pas qu'on l'évite, il faut qu'on tombe dedans et qu'on ressorte. Et qu'on ressorte avec quoi? Avec l'homosensualité. Nos enfants font l'Œdipe entre 3 et 4 ans, et à 5 ans, vous les trouvez dans les cours d'école, les garçons sont avec les garçons, font de l'homosensualité, les filles avec les filles, elles font de l'homosensualité. Et c'est comme ça que nous nous trouvons à peu près équilibrés entre l'hétéro et l'homo. Et vous voyez que de toute l'histoire que je raconte, le père ne peut pas être exclu. Sinon, mon histoire, elle est fausse. Moi, je sais bien que dans beaucoup de cas, elle est fausse, et ça me désole beaucoup. Et que puis-je faire sinon parler à des gens qui savent, ou à des gens qui comprennent, et à des gens qui peuvent parler à d'autres en disant, bah, tu sais, le père, c'est drôlement important. Hein. Tu te figures qu'il n'y a que le fric, qu'il n'y a que ta situation, que cadre supérieur, que dirigeant. Ben, tu sais, hein, si tu laisses Jean et Étienne avec moi, ça va payer. J'ai compris ça. Hein.